Bonsoir. Alors, le titre de la table ronde aujourd'hui, enfin ce soir, est celui de Génération Y, les aventuriers du pixel perdu. Et la grande question que je me suis posée quand on m'a refilé ce sujet, c'est mais qu'est-ce que c'est, nom de Zeus, la Génération Y ? Alors, c'est normal que je ne sache pas, puisque c'est mon fils, en fait, et qu'il n'y a rien qui soit plus aveugle sur ses enfants que les parents. Donc, la génération Y est celle des jeunes adultes nés avec une souris dans le berceau. Ils auraient surgi entre les années 80 et 90, jusque vers les années 2000, mais certains, dont Florence Porcel, ici présente, pourraient pourtant prétendre être de l'Y, conteste totalement la largeur de cet éventail. Elle nous en parlera. Les Y textotent à leurs copains, leurs parents, leurs amants pendant qu'ils rédigent leur thèse ou qu'ils jouent à des serious games, tout en se ménageant des pauses et en collant simultanément leurs photos de fiesta sur Instagram. Ce sont les habitants originaux du village mondial. Leur surnom viendrait du dessin que forment leurs écouteurs sur leur poitrine. Ça fait un Y, vous voyez ? Tchouk, tchouk. Et c'est ceux qui, on les désigne ainsi par opposition à celles de leurs parents, c'est-à-dire moi, par exemple, ou Christian, ou peut-être bien toi, qui sont, eux, de la génération X. Et donc, ce soir, pour parler de la génération Y, on a décidé de demander à un baby-boomer, Christian Gatta, 2X, Éric Leguet et Olivier Paquet, et peut-être une XY, ce qui est assez amusant, Florence Porcel. Et je vais leur demander tout de suite de me dire qui ils sont et comment ils se situent par rapport à la génération Y. Florence, tu es la femme du Pentagone, si j'ose dire, à toi de parler.
Je suis la femme du Pentagone, waouh. Eh bien, bonsoir. Je suis actuellement animatrice dans La Tête au Carré, une émission scientifique sur France Inter. Je suis également aux Utopiales cette année en tant que candidate à Mars One. Et que pourrais-je dire de plus pour me présenter ? Est-ce que ça te suffit ? Et je ne sais pas si j'appartiens à la génération X, Y ou entre les deux. Je suis pas sûre de ça. Tout dépend de comment on définit la génération Y. Voilà.
Alors, à ton avis, est-ce que tu fais partie de ceux que la génération Y utilise pour répondre à leurs questions sur l'univers ? Parce que ce sont des questionneurs, les générations Y.
Je ne sais pas. Tout dépend de ce qu'on appelle génération Y. Ça se trouve, je rencontre des gens qui sont de la génération Y, mais je l'ignore. Donc, je ne sais pas si ce sont eux qui me posent des questions sur l'univers, la vie et le reste.
Ah, alors on va demander à Christian, peut-être, de répondre à cette question.
Alors, je pense dans un premier temps que toutes ces façons de mettre en boîte les gens et les générations est déjà problématique. Moi, mon métier, c'est... je suis consultant, je dirige une collection qui s'appelle Géographie du futur, et je viens de publier un bouquin qui s'appelle Mythologie du futur, où précisément, dans ce livre, je suis parti en quête à travers le monde de ce que les jeunes générations pensaient du présent et de l'avenir. Donc là, c'était déjà intéressant et je pense qu'on pourrait certainement faire des différences entre ce qu'on va appeler la génération Y en France et dans le reste du monde. Déjà, il y a une vision qui me paraît, en France, on le sait, c'est presque un mythe, tout le monde est déprimé. Dans le reste du monde, ce n'est pas le cas. Donc ça serait intéressant de voir ce qui se passe par rapport à ça. Mais il est vrai qu'on peut dire aujourd'hui que la génération Y, et il y a des tas de déclinaisons possibles autour de ce terme de Y, millénial, le terme le plus souvent utilisé, c'est le basculement du millénaire, c'est la découverte et l'usage de toute la matière digitale qui nous entoure. Alors, ils sont là-dedans, hein, c'est sûr. Maintenant, cette façon de voir les générations Y, je pense que tous ici, nous utilisons la matière digitale tous les jours aussi. Hein. Donc,
tout à fait.
J'aime mieux le mot digital.
Non, oui, non remarque, Georges, s'il te plaît.
La discussion peut être ouverte, je veux dire, la sémantique est importante.
Non, la discussion n'est pas ouverte avec Georges.
La discussion n'est pas ouverte.
Je tiens à le dire tout de suite.
Donc voilà, donc je dirais oui, bien entendu, il y a quelque chose de générationnel, il y a surtout quelque chose de sociologique. Autour de la vraie question, c'est celle de la jeunesse et de l'énergie de la jeunesse. On pourra revenir sur ce point-là, je pense.
Tout à fait. Éric Le Guay, vous vous définissez comme un prof de geek, vous allez le dire beaucoup mieux.
J'ai été nommé prof de geek parce que j'ai des geeks, des étudiants à l'Engmin, une école de jeux vidéo, des étudiants à Gobelin qui font du pixel art d'ailleurs.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez, vous qui en avez sûrement élevé des Y qui n'existent pas, comme disait Christian, comment vous définissez-vous par rapport aux Y?
Un peu comme ce qu'on disait à l'instant, cette mise en boîte est un peu artificielle parce que c'est certains gourous américains qui ont décidé de classer leurs enfants blancs, classe moyenne, voilà, qui ne savaient pas trop quoi faire. Donc ils les ont classés comme digital native, ainsi de suite. Qui ne correspond pas vraiment à une réalité parce qu'on peut être geek à 90 ans ou génération Y plus âgée ou plus jeune. Ma définition de la génération Y, s'il y avait une génération, mais elle ne serait pas en termes d'âge, elle serait plutôt en termes de vision du monde. Puisque, par exemple, quand je discute avec des étudiants, lorsque je leur donne une mission, lorsque je leur propose de faire quelque chose, immédiatement, ils imaginent ce qu'ils vont pouvoir faire à travers un ordinateur. Alors que les générations plus récentes, des enfants nés après l'an 2000, eux ne se posent pas la question de l'ordinateur, parce que c'est un truc qui ne marche pas, qui tombe en panne, c'est Windows, c'est Microsoft. Et eux, ils vont regarder qui peut les aider pour résoudre la mission. Et je vis en fait ce contraste en permanence d'avoir des gens qui sont tellement formatés par l'objet informatique, je dis volontairement informatique, hein, que systématiquement, ils vont penser la création, la formalisation via un ordinateur. Et d'autres ne pensent pas le monde via un ordinateur et donc sont de la même génération en termes d'âge, mais ne perçoivent pas le monde à travers Windows ou du code ou ce genre de choses.
Donc votre définition serait des gens qui seraient
qui voient le monde à travers système. Voilà, qui voient le monde à travers un filtre numérique codé 0-1.
Des gens qui n'existent pas, mais qui se définissent par un système.
Oui, alors ils n'existent pas, si vous voulez. Dès qu'ils pensent à faire quelque chose, ils vont le penser à travers la machine ou à travers leur ordinateur.
Et vous, Olivier Paquet, écrivain de science-fiction, selon vous, l'ASF a-t-elle tenu compte des Y dans son projet ?
Alors, le problème de la science-fiction, c'est qu'elle est un peu victime de son succès. C'est-à-dire qu'elle a marqué, d'une certaine manière, où il y a une marque des années 70... de cette fusion qui a existé dans l'informatique entre les hippies et les universités américaines. Donc il y a eu tout un ensemble d'idéologies, de rapports justement à tout ce qui était numérique, qui a défini des idées, tout le mouvement du logiciel libre, l'image, l'une des images majeures de la science-fiction, telle qu'on la voit dans Neuromancien de William Gibson, c'est le pirate informatique, le hacker. C'est cette idée de libérer l'information à travers ces pirates, donc d'une transparence aussi. Mais donc c'est cette figure-là, ces figures-là de libération ou d'hyper-contrôle de l'informatique ou des réseaux par des puissances, que ce soit les puissances du privé ou les puissances gouvernementales. Ce que je trouve manquant dans la science-fiction, c'est l'approche sociologique du numérique, c'est-à-dire de rendre compte des usages actuels des réseaux de Facebook, Twitter et autres. Et c'est parce que c'est assez difficile en science-fiction de traduire des mouvements qui sont des mouvements d'agrégation, des mouvements larges qui sont. On peut pas y définir un individu. C'est très flou. Alors en science-fiction littéraire, et que ce soit française ou américaine, on l'a pas vraiment. On l'a un peu. J'ai un exemple que j'aime beaucoup à ce titre. C'est une petite série très peu connue, une série d'animation japonaise qui s'appelle Platonic Chain. C'est une série avec des petits épisodes de 5 minutes qui date de 2002-2003. Il y a 23 épisodes, c'est absolument pas connu en France. Et c'est les Japonais qui ont le mieux traduit justement l'usage des réseaux. Donner un exemple pour comprendre comment ils ont fait. On suit une fille qui est abordée par un garçon qui lui dit Est-ce qu'on ne s'est pas déjà vu quelque part ? Et la fille, son réflexe, c'est de sortir son téléphone et puis de regarder, parce que les caméras qui sont partout permettent de suivre les déplacements, et elle fait l'historique de tous ces déplacements sur une année, et elle connecte avec le téléphone de celui qui l'a interpellé, ils connectent leurs deux téléphones, et ils se rendent compte, ah ben non, ils ne se sont effectivement jamais croisés. Donc c'est une sorte d'image comme ça du réseau, d'utilisation du réseau informatique qui date de 2002-2003, c'est quand même l'antiquité au niveau des réseaux, et avant Facebook, avant Twitter, etc., qui n'est pas orwellienne de base, c'est-à-dire ce n'est pas un ordinateur avec une entité, un gouvernement qui impose cela, mais c'est un usage comme ça qui est assez ambigu, parce que bon, c'est un gag, mais en même temps, quand on réfléchit à l'arrière-plan du gag, c'est assez vaste. Donc les Japonais ont, il y a aussi d'autres séries, eux ont assez, plutôt pas mal, anticiper les réseaux sociaux et l'usage des générations, parce que tous ces personnages, c'est ce que j'appelle des pétasses de Shibuya, parce que c'est les gamines qu'on voit à Shibuya dans les quartiers japonais, et c'est des gamines de la génération Y.
D'accord. Donc en fait, la génération Y, ce serait en fait une autre sociabilité, une sociabilité qui ne se maintiendrait pas au voisinage mais au village mondial. Qu'est-ce que vous en pensez, Florence Montparcel?
Oui, une autre sociabilité, oui. J'ai une anecdote comme ça. Ma grand-mère me voyait devant mon écran et elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais toute seule devant ton écran ? Sors, vois des gens. » Et je lui dis « Mais devant mon écran, je parle à dizaines de milliers de personnes qui sont tout autour du monde. Si je sors, je vais parler à personne, en fait. » Donc, qui est le plus sociable ? Celui qui rentre chez lui et qui se met devant son ordinateur le soir pour discuter avec des gens, ou celui qui se met devant son écran de télé et qui parle à personne ? Ce qui est pourtant la norme jusqu'ici. Et il y a une expression aussi que je me surprends à utiliser de plus en plus, c'est « voyons-nous IRL », ça veut dire « in real life », dans la vraie vie. C'est très bizarre, c'est très très bizarre, voyons-nous dans la vraie vie. Alors que c'est vrai qu'on discute maintenant avec des tas de gens qu'on ne connaît pas en vrai, mais ils nous sont quasiment plus intimes que des gens de notre propre famille qu'on ne voit pas si souvent, ou notre voisin de palier qu'on n'a jamais croisé. Et pourtant, des gens qui sont autour du monde, on pense les connaître parce que ça fait 3-4 ans qu'on les suit sur les réseaux sociaux, on connaît leur vie. Donc oui, je pense que c'est une autre sociabilité. Il y a aussi le fait que pour les gens qui ont un petit peu du mal à être sociables, Internet et le fait d'avoir accès derrière un écran à des formes de discussion un petit peu cachées, un petit peu protégées, ça peut aider vachement. Ça peut aider vachement. Et je pense que ça a aidé beaucoup de timides ou de gens pas à l'aise, d'être un peu plus à l'aise ensuite, après, dans la vraie vie, pour communiquer avec ses semblables. Mais c'est un point de vue tout à fait personnel.
Moi, je le partage. Christian Gatta.
Je voudrais dire quelque chose par rapport à ça. Je crois qu'il ne faut pas réduire cette génération à des instruments, à du hardware, à des ordinateurs. Ce que vous dites est extrêmement intéressant. Ce qui les intéresse là, ce qui vous intéresse là, c'est le contact avec les autres, c'est l'énergie de ce contact. C'est le fait que, au-delà de tout ce que l'on dit aujourd'hui, dans ces réseaux, on a 3000 amis, en fait, ce n'est pas des amis, pas des vrais, je ne pense pas. Je pense qu'en réalité, il y a là un potentiel relationnel extrêmement puissant à travers ces éléments. La technologie va disparaître. On sait très bien que dans quelques années, la technologie sera totalement discrète. Elle sera tellement autour de nous, en nous, qu'elle se banalisera. Ce qui sera important, c'est la relation, c'est la notion de l'individu. Et la génération Y, elle est très sensibilisée à la notion d'individu, de ce qu'elle est elle-même dans son rapport aux autres. Ça me paraît très important. Et pour faire rapidement, je parlais de mes expériences autour du monde. Là, je rentre d'un tour du monde où j'ai interviewé aussi bien en Arabie Saoudite qu'à Moscou, qu'à Shanghai, à Bombay ou au Mexique, des jeunes de cette génération. Or, qu'est-ce qui les intéresse, cette génération ? C'est deux choses essentielles. C'est ses propres racines, c'est là d'où ils viennent. À Mexico, cette jeune fille qui disait « Mais au fond, je suis aztèque ». Et elle avait des tatouages de la déesse de l'amour aztèque dans le cou. Elle était très New Age, etc. Et en même temps, elle était sur Facebook pour voir les résultats de Manchester United. Donc il y a cette dimension qui est là. Les jeunes de Jeddah, les jeunes filles de Jeddah, qui pouvaient me voir, je ne sais pas comment j'ai eu le droit avec les mollahs de les voir pendant une journée entière, etc. elles venaient complètement voilées, etc. Et puis au fur et à mesure de la journée, les voiles tombaient sous des vêtements Gucci et Prada peut-être, mais enfin bon, c'était quand même ça. Et en même temps, elles étaient d'une impertinence avec la religion, avec les chefs de guerre, ça qui était extrêmement intéressant. Donc moi je crois qu'il y a dans cette génération essentiellement cette espèce de nouvel héroïsme, on pourra parler justement de comment on peut percevoir ces gens-là. Il y a cette dimension qui est d'autant plus intéressante, je ne vais pas monopoliser la parole, mais elle est d'autant plus intéressante qu'elle est matinée d'une certaine forme de spiritualité, d'une certaine forme de retour à des valeurs extrêmement profondes, comme les ancêtres et le respect des ancêtres. Donc c'est très étonnant d'aller voir ce qui se passe en dehors des cercles parisiens, je dirais.
Tu parlais de voile, je vais faire un parallèle hardi. Olivier Paquet, est-ce que Florence Porcel mettait en avant le fait de parler de façon intime avec des gens qu'on connaît pas, parfois
oui, enfin,
très.
Moi, je parle non, pas de choses intimes sur Internet.
Toi,
mais,
tu travailles, c'est pas pareil, mais il y a plein de gens qui le font. Est-ce que, en plus d'être une autre sociabilité, est-ce qu'il n'y a pas une autre transparence, Olivier Paquet, sur dans la génération Y, une autre façon de gérer le rapport à l'intimité oui. et au public.
En fait, moi, ce que je trouve fascinant. C'est on déplace les limites entre ce qui est public, privé, intime et public. Mais ce sont des limites ou des frontières qui ont toujours évolué historiquement. C'est-à-dire ce que nous estimons être intime ou qui doit être rendu public, c'est quelque chose qui évolue. Je vais donner un exemple qui est ancien pour voir justement que ça évolue, que ça va changer. C'est des choses qui sont passionnantes à étudier, ces changements. C'est la question, une question technique, de technologie. Là, on va partir à quelque chose de technologique, de hyper technologique même, c'est l'isoloir. L'isoloir pour voter, ça date de la première fois que c'est utilisé, c'est en 1913. Les débats sur la mise en place de l'isoloir, c'est des choses absolument merveilleuses à étudier, c'est les débats de l'Assemblée, parce que les députés n'en voulaient pas. Enfin, vraiment, ça a été un combat pour imposer l'isoloir. Alors, c'était une technologie, on se disait, avec des pages où on vous explique que les paysans ne peuvent pas rentrer dans l'isoloir parce qu'ils n'arriveront pas dans le noir avec leurs doigts gourds pour mettre l'enveloppe, ils vont déchirer l'enveloppe. Bon, donc il ne fallait pas d'isoloir. Et quand la première fois qu'il y a eu l'isoloir, parce que le problème de l'enveloppe à l'époque, c'est que l'enveloppe, donc on rédigeait son bulletin pour qui on votait, et on tendait l'enveloppe au maire qu'il mettait dans l'urne. Et souvent, le maire, avec une technique, il arrivait à savoir pour qui avait voté qui. Et alors, avec l'isoloir, en plus, et le fait que l'enveloppe allait directement dans l'urne, mais quand ça a été fait en 1914, le premier vote, par exemple à Concarneau, il y a des gens qui ont refusé de passer par l'isoloir. Des gens qui ont dit « je n'ai pas honte de mon vote ». C'est-à-dire que l'aspect, le vote secret, ce n'était pas considéré comme quelque chose de fondamental. Et il y avait en même temps, dans les discussions des députés, de se dire « oui, mais si on fait l'isoloir, eh bien en fait, on va couper l'électeur, isoler l'électeur. Hein, » Le terme « isoloir » est très fort. On va couper l'électeur de la communauté nationale. Parce qu'à l'époque, comment ça se passait? Eh bien, les élus offraient des charges ou des métiers aux électeurs. Il y avait une sorte de négociation d'inscription d'électeurs dans la communauté. Quand on crée l'isoloir, on coupe l'électeur de cette communauté. Et donc cette peur-là de couper, d'avoir un individu coupé de ses réseaux, de ses relations dans des sphères. Et finalement, de nos jours, on peut se poser la même aussi de nouveau la question avec la question du vote électronique. Pas la question du vote avec la machine dans le bureau de vote qui n'a pas vraiment d'intérêt, c'est une électronisation du vote, une mécanisation du vote qui n'a pas vraiment d'intérêt, mais la possibilité qui a déjà été testée et qui fonctionne de pouvoir voter depuis son téléphone portable, depuis son ordinateur, depuis un distributeur automatique de billets, toutes ces choses qui sont faisables et qui rendent le système plus sûr qu'une simple machine à voter dans un seul bureau de vote. Mais là se pose la question de justement, il n'y a plus d'isoloir. Qui va dire dans une famille, est-ce que les gens ne vont pas voter tous ensemble avec la mère, le père qui va regarder ce que va voter la mère ou ce qu'ont voté les enfants, si les enfants sont encore dans le foyer. Donc il y a des choses qui vont changer sur notre rapport au public et au privé. Par exemple, il y a quelque chose du vote qui actuellement nous semble, c'est impensable, on n'imagine pas de sortir de cette idée du vote comme étant secret. Mais c'est des choses qui n'étaient pas le cas il y a plus de 100 ans. et qui peuvent encore changer. Donc moi, ce qui que je trouve intéressant, alors à dos sur d'autres domaines, là j'ai dit du vote, là encore, je suis pas sûr que les générations Y sont prêtes à lâcher l'idée du vote secret, mais on peut imaginer que les générations futures peuvent modifier ces rapports-là. Donc ça, ce sont des choses qui sont, à mon avis, intéressantes.
Éric Le Gay.
C'est un bon exemple, l'isoloir, parce qu'il y a un trait caractéristique, c'est le fait pour cette génération d'appréhender tout ce qui est dématérialisé. C'est la première fois qu'en fait, toutes les productions humaines, tous les services qu'on peut avoir n'ont plus de matérialité. Et c'est cette fracture souvent qui n'est pas comprise. Pour revenir à ce que vous disiez, quand la grand-mère a dit « mais t'as pas autre chose à faire », on a la même chose dans le rejet du jeu vidéo. Les parents ne comprennent pas que leur enfant, ils ont même peur qu'il soit désocialisé, alors que c'est exactement l'inverse. Ils ont des carnets d'adresses qui sont plus importants. Et en fait, c'est cette aisance à être dans le dématérialisé permanent, de le vivre très bien, de le gérer, de l'utiliser, d'en avoir même une vision mentale, parce que ça aussi, c'est très important. C'est comme quand on conduit, on peut changer de voiture, la voiture change de taille, on sait toujours conduire. Ben là, c'est pareil, ils arrivent à changer, envoyer des fichiers, la taille du fichier, des choses qui sont complètement incompréhensibles pour beaucoup de gens. Et donc, la gestion de ces apports dématérialisés, c'est aussi une grande spécificité de ces gens, qui, enfin de ces gens, du public quoi, dont on parle, et qui vont être tout à fait à l'aise. Et forcément, ils sont d'autant plus à l'aise qu'ils n'ont pas eu toute l'histoire qu'on a pu connaître, nous, du vote, du papier, de l'isoloir, du livre. Et donc, en effet, on rencontre, pour aller moi-même souvent en Chine, je suis frappé d'avoir des étudiants qui ne peuvent pas écrire sur du papier, parce qu'en Chine, le papier est absolument hors de prix. Donc, vous avez des cours, ils ont des tout petits blocs-notes parce que c'est trop cher, mais qui vont faire tous leurs cours sur un smartphone et qui vont envoyer, récupérer, vous filmer, vous photographier, et donc avoir une notion très différente. Alors que nous-mêmes, encore à l'université française, vous avez des enseignants qui vont demander l'interdiction de l'ordinateur en cours. Voilà. Donc c'est un peu ça, une sorte de frontière entre des gens qui vont manier ce 0 et ce 1 dématérialisé et les autres qui sont encore dans la matérialité. J'avais le même exemple, alors c'est amusant, mais sur le téléphone, lorsque le téléphone est arrivé, les gens avaient peur, on ne voit pas la personne, on n'entend que sa voix. Vous imaginez, à l'époque, c'est un fantôme. Quand on n'entend que la voix sans voir la personne, c'est un fantôme. Ben là, on a des sortes de fantômes numériques.
Justement, l'exemple du téléphone, on se rend compte que les nouvelles générations téléphonent de moins en moins.
Ils téléphonent plus.
Parce que le téléphone est agressif d'une certaine manière, puisqu'on s'impose dans la vie de l'autre, alors que le texto, on répond quand on a du temps.
Quand je fais des sessions de jeux vidéo avec des 12 ans, 13 ans, ils me disent tous « c'est ma mère ». Le téléphone, c'est ma mère.
Je pense que cette génération peut être qualifiée... Un concept que j'aime bien, c'est celui d'allégeance rebelle. C'est-à-dire que, bien entendu, nous faisons allégeance aux instruments qui sont là, de même qu'on fait allégeance à des tas de choses. On fait allégeance au réchauffement climatique, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On fait allégeance à la puissance de l'argent. Mais à l'intérieur de ça, s'il y a bien quelque chose dont s'empare la génération Y, c'est une forme de rébellion. On accepte un système, et à l'intérieur du système, on est là pour le régénérer, le faire exploser, etc. Et quand ils utilisent effectivement le smartphone pour suivre les cours, ils se servent du smartphone justement pour déclencher des printemps arabes, quoi. Hein, donc c'est ça qui est
intéressant. Hong Kong, ce qui s'est passé à Hong Kong.
D'ailleurs, justement, Florence, j'avais envie de vous demander, d'après vous, est-ce que finalement, les générations Y, c'est quelque chose de tout à fait différent, un nouveau phylum
de différent
par rapport à nous, les vieux?
Non, j'irai pas jusque-là. Je sais pas, moi je me sens entre les deux. Enfin, si vraiment la génération Y, c'est la population qui a grandi en ayant toujours connu la technologie, c'est pas mon cas. Moi, le premier téléphone portable que j'ai vu, j'avais 14 ans, c'était un machin qui faisait... ça, et avec une antenne, et voilà. Et moi, pour mes 16 ans, j'ai demandé un modem qui coûtait 800 francs. Voilà, je suis pas née dans la technologie, moi. J'ai fait toute ma scolarité avant le bac, sans Internet, sans technologie. Donc moi, vraiment, je me sens entre les deux. Après, c'est vrai, Internet, les nouvelles technologies, c'est quelque chose qui me plaît. Donc je m'y suis plongée, et je suis accro à Twitter, et voilà, mais c'est pas le cas de mes copines qui n'ont même pas de compte Facebook, par exemple. Donc vraiment, j'ai l'impression d'être entre les deux, et ça dépend de quoi on parle, en fait.
C'est pour ça que c'est pas une question d'âge, parce que dans la même classe, il peut y avoir la moitié de l'effectif qui va être très branché et l'autre moitié absolument pas.
Donc... Et en même temps, en étant très branché, je ne peux pas lire sur une liseuse. Moi, il me faut l'objet livre physique. Je ne peux pas me passer de lire sur un livre. J'arrive pas. J'ai essayé, hein, des liseuses. J'arrive pas. Je suis trop attachée à l'objet.
Moi donc, qui ai trois fois votre âge, j'ai la moitié de ma bibliothèque.
Non, tu aurais 90 ans, je ne pense pas.
La moitié de ma bibliothèque est sur Kindle ou sur iPad et le reste en papier. Et je suis très à l'aise avec ça.
Donc, je suis plus vieille que vous, donc, à ce niveau-là.
Non, justement, ce n'est pas une question d'âge physique, c'est une question de rapport au monde. C'est une question de rapport de sensualité avec le papier ou l'écran, etc. C'est vraiment une question d'adaptation personnelle, je crois.
C'était peut-être le rêve de notre génération, en fait. On concrétise des rêves qu'on avait dans les années 60-70, qu'on a peut-être lus dans les livres de science-fiction. Moi, je me souviens, Fahrenheit 451, les murs écrans. Eh bien, le mur écran, quand sont arrivés les écrans plats, j'ai dit, ça y est, les murs écrans existent.
Oui, mais alors, reprenons sur les
murs. Avec la télé-réalité.
Oui, mais justement, c'est très intéressant sur les murs écrans, parce que, or, les nouvelles générations regardent de moins en moins la télé. Justement, le Fahrenheit 451, ils utilisent de plus en plus l'écran. Voilà, c'était la télé où la télé est omniprésente. Or, les nouvelles générations se détournent, vont de moins en moins vers l'écran parce que, enfin, pas vers l'écran, pardon, vers la télé diffusée le programme télévisuel.
Ils regardent YouTube sur leur télé, quoi.
Voilà, c'est ça. Ils regardent les choses et ils vont regarder YouTube. On a quand même des générations qui ont accès grâce à YouTube. Effectivement, toujours aux mêmes chansons ultra diffusées, mais aussi à des raretés qui peuvent. Donc, on a des générations qui peuvent être plus cultivées dans des domaines parce que c'est accessible, alors que ce n'était pas accessible. Moi, en tant qu'écrivain de science-fiction, ce qui est formidable quand on a Internet, moi j'ai eu le cas récemment, c'est-à-dire j'ai voulu écrire un texte qui se passait à Tokyo après le tsunami. Ce qui est formidable, c'est que j'avais accès à Google Earth. Et je pouvais voir où allaient mes personnages sous Google Earth, etc. Pour un écrivain, c'est quand même formidable d'avoir Internet qui permet comme ça de concrétiser, de rendre le réel. Pour un auteur, c'est quand même très bon, au lieu d'imaginer un truc vague, d'avoir quelque chose de précis. Donc on a des capacités, on a accès à des choses qui n'existaient pas. Donc c'est ce qui arrive aussi aux nouvelles générations.
Et comme dirait Michel Serres, c'est quelque chose qui te permet pas passer du temps à aller rechercher ça ou même à aller à Tokyo, ça, et ça libère ta créativité et tout le temps d'intuition que tu peux avoir pour faire ça.
Puisqu'on est à Nantes, d'ailleurs, c'est Jules Verne, et je pense que Jules Verne, il aurait adoré Google Earth. Oui. Parce qu'il a passé son temps à aller dans les bibliothèques, chercher des ouvrages de géographie.
Et aussi, en tant qu'auteur, on ne se limite pas, on se dit pas, oh, je vais pas mettre ce détail-là, parce qu'il va falloir que je fasse des recherches, que j'aille en... On se dit, ah bah, je vais regarder, si je trouve un truc, bah, tant mieux, si je ne trouve pas, bon, j'inventerai. Mais il y a aussi, donc, du coup, on se limite moins aussi grâce à ça.
Et en tant que journaliste, est-ce qu'on se limite moins?
Ah, mais j'ai très... Je ne suis pas vraiment journaliste, alors c'est des...
Oui, mais justement, tu es journaliste scientifique, donc a priori,
non.
Tu animes une émission...
Je co-anime un jeu à la fin d'un magazine scientifique, on ne peut pas dire que je sois journaliste scientifique.
Mais tu te renseignes.
Oui, ah bah oui. Non, donc, mais ça, oui.
Tu te renseignes où? Sur Internet.
Bah, sur Internet, oui,
voilà.
Typiquement.
Et comment tu gères la... comment dire... entre guillemets, la non-fiabilité du réseau?
Alors oui, le problème avec Internet, qui n'en est pas un, c'est qu'on y trouve de tout, et donc de n'importe quoi. Et donc, il faut avoir une certaine... culture du web pour savoir où trouver les bonnes sources et comment les trouver. Et ça, effectivement, je pense que ça s'apprend. Et j'espère qu'on l'apprendra dans les écoles à comment trouver une information. Parce qu'on peut trouver, vraiment, on peut tout trouver. Et c'est compliqué de savoir quelles sont les sources fiables. Il faut vraiment aller au fond, connaître un petit peu de technique, voire connaître un code pour aller chercher une information un peu plus profonde dans les internets. Enfin, c'est vraiment une démarche qui est compliquée. Et après, mais rien... Enfin, si vraiment j'étais journaliste, rien ne remplace un coup de fil à la personne pour vérifier l'information. Même si on l'a vu trois fois sur Wikipédia et ailleurs, on n'est jamais sûr que Wikipédia soit pas faux et qu'ensuite ça a été répété parce qu'on l'a vu sur Wikipédia. Donc il faut toujours, enfin, j'espère que les journalistes passent des coups de fil et vérifient les informations scrupuleusement. J'espère que mes collègues le font.
Moi aussi, je l'espère.
Je trouve qu'elle a une excellente illustration de ce qu'est la génération Y dans ce qui se défile comme profil pour toi. pas tout à fait génération Y, pas tout à fait journaliste, c'est donc autre chose. Et je crois vraiment que là, il y a quelque chose de très intéressant sur le fait que c'est des nouvelles balises, quoi, hein. C'est, on n'a pas vraiment de repère absolu pour dire ce qu'est la nouvelle génération d'aujourd'hui. Elle
en
se
fait,
crée. Voilà.
On appelle ça la slash gène, le slash, la barre. Et c'est vrai que quand on me demande de me présenter, tu m'as demandé de me présenter tout à l'heure et je suis devenue toute verte parce que je me suis dit mais comment je vais, je sais pas comment me présenter. Et c'est vrai que j'ai un bac L, j'ai fait des études littéraires et maintenant j'ai un podcast sur les sciences de l'univers, je travaille dans une émission scientifique et je suis candidate à une mission pour aller vers Mars. Ça n'a aucun sens. Bon, ça n'a aucun sens.
Moi, je trouve que si, mais bon.
Mais, en fait, le truc, c'est que j'ai toujours été passionnée de science, mais quand j'étais petite, j'avais pas accès à Internet. Donc, j'avais accès à des livres dans les bibliothèques. Je regardais en cachette les images de planètes dans des encyclopédies qui me passaient sous le nez. Et quand Internet est arrivé, pour moi, ça a été merveilleux parce que c'était une ouverture sur le monde et tous les possibles et l'univers. Et j'ai regardé des conférences et j'ai lu et j'ai trouvé des références de livres, d'essais scientifiques à lire. Et du coup, je me suis nourrie de tout ce qui me passionnait sur Internet pour ensuite repartager ce qui m'avait nourrie et ce qui m'avait passionnée en faisant un podcast qui est en ligne toutes les semaines à peu près. Et c'est vrai que sans Internet, je ne serais pas là où je suis en ce moment parce que je serais restée dans mon univers local et je n'aurais pas eu accès, sauf à passer mon temps dans les bibliothèques. Mais enfin, c'est quand même un peu laborieux, il faut se déplacer, etc. C'est autre chose. Donc oui, la slash gêne, c'est le fait de pouvoir, grâce à Internet et aux nouvelles technologies, ne pas suivre la voie qui nous a été imposée par un choix qu'on fait quand on a 15-16 ans. Qu'on fait quoi ? L, E, S, S. Et il y a des... La semaine dernière, j'ai fait une conférence à Lausanne et il y a une maman de deux ados qui est venue me voir en me disant « Écoutez, merci pour ce que vous faites parce qu'en tant que mère, je suis toujours inquiète pour l'avenir de mes enfants, mais vous êtes la preuve vivante qu'on peut se tromper et c'est pas grave. C'est pas grave, on peut quand même très bien réussir dans la vie en prenant un chemin tout à fait différent. »
Rien ne dit que d'avoir fait elle, tu t'étais trompée.
Certes, mais il se trouve que là, ce que je fais dans la vie n'a pas grand-chose avec les études que j'ai faites. Mais non, c'est pas, je me suis pas trompée, mais c'est juste que quand on regarde mon parcours, enfin tout le monde, quand les gens me rencontrent, ils sont persuadés que j'ai fait des études scientifiques, ce qui n'est absolument pas le cas. Je fais très bien illusion, quoi, mais
vachement bien, bravo.
Grâce à Internet.
Et justement, j'y pense à cause du projet Mars One. Auquel tu participes en tant que sélectionné à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que je me tourne vers Olivier Paquet. À ton avis, est-ce que Florence est en train de réaliser les rêves de notre génération, la génération X, qui a quand même rêvé des étoiles ?
Non, mais là, je ne réalise rien du tout, je ne suis pas partie. Hein.
Oui, non, mais
tu en rêves quelque part et tu es plus proche que nous n'en serons jamais.
C'est pas faux.
Oui. Voilà. Et ça... Je ne peux pas m'empêcher de t'envier, mais je vais donner la parole à Olivier.
Parce que moi, quand même, à la base, c'est quand même les étoiles qui m'ont un peu motivé. Quand j'étais gamin, je voulais être astrophysicien. Donc, j'ai fait Sciences Po à la place. Mais donc, c'est surtout les étoiles. Mais pour moi, le rêve, c'est l'impesanteur, ce genre de choses. C'est... L'espace, pour moi, ça représente le retour aux grandes découvertes, à ce genre de choses. Donc, c'est ça. Bon, évidemment, Mars, c'est bien, mais quand même, voilà, ça reste la banlieue, quoi. À partir du moment, parce que, évidemment, c'est formidable d'aller sur une autre planète, mais à partir du moment où on a été sur la Lune, on a déjà été sur une autre surface, si j'ose dire. C'est le seul rêve qui nous est accessible, parce que pour le reste, il n'y a aucune possibilité, on ne peut pas imaginer. C'est quand même d'ailleurs un peu tragique parce que les astrophysiciens nous découvrent des exoplanètes toutes les semaines et on n'ira jamais. Donc, ils vont un jour nous découvrir des planètes qui peuvent avoir la vie, mais on ne pourra jamais y aller parce qu'on n'a pas les moyens d'y aller. Donc, déjà, pouvoir aller sur Mars, en plus, c'est assez long quand même. Enfin, aller sur Mars avec les moteurs que l'on a actuellement, c'est surtout un problème. Il y a un problème d'ingénierie spatiale, mais aussi un problème d'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'il faut arriver à vivre pendant autant de temps. Moi, c'est ça qui m'angoisserait le plus.
Mais ça se fait depuis 15 ans dans la station spatiale. C'est des missions de 6 mois.
Oui,
un voyage Mars, c'est 7 mois.
Effectivement, c'est ça. Mais c'est la question du nombre d'individus. Il faut être sur place. Enfin, ça fait partie partie des choses que je trouve à la fois fascinantes. Moi, effectivement, je ne sais pas si vous avez vu, c'est l'un des commandants de la station spatiale, un Canadien qui avait fait une vidéo absolument merveilleuse.
Florence a reçu un tweet de ce monsieur.
Oui, Chris Hadfield.
Chris Hadfield, oui, voilà, il m'a envoyé un tweet de l'espace.
Qui a fait une vidéo où il a fait un clip de Space Oddity de David Bowie qui est absolument merveilleux. Où moi, en tant qu'écrivain de science-fiction, je trouve, pour moi, c'est la définition de la science-fiction. C'est justement une chanson de science-fiction avec le décor de la station spatiale, avec le...
Bon, voilà, tout c'est ça en apesanteur, surtout.
Ouais, en apesanteur, bah oui.
C'est mais... magique.
Ah, mais ça, là, magique. Là,
si un jour vous ne savez pas ce qu'est la science-fiction, vous regardez ça, vous avez la science-fiction. Voilà. Bon, c'est quand même... Et ça, c'est des rêves que je peux avoir. Et je doute qu'un jour, avoir assez les moyens pour aller juste en suborbital, hein, et puis aller en apesanteur, ça non plus.
Donc, mais notre génération qui vit dans un monde de science-fiction, parce que la technologie qu'il y a maintenant, il y a 15 ans, on ne l'imaginait même pas. C'est incroyable. Moi, j'ai l'impression tous les jours de vivre dans le futur. Et malgré tout, on n'a jamais connu, enfin moi, je n'ai jamais connu de mon vivant un être humain qui se soit posé sur un autre astre que notre planète. Mmh. Et ben, c'est hyper frustrant, parce qu'on l'a fait il y a 50 ans, et avec toute la technologie qu'on a là, on n'est même pas foutu d'aller plus loin qu'à 400 km d'altitude. Mais d'où? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait autant de technologie dans nos téléphones, dans nos poches, et qu'on n'aille même pas sur la Lune où, ouais,
Surtout que la technologie dans nos téléphones...
Elle est bien plus puissante que les missions Apollo. Bah oui, et donc il y a quelque chose que je ne comprends pas, moi, et qui me frustre. Voilà.
Moi, je me rappelle d'une fois où mon ordinateur était plus puissant que celui qui gouvernait Hubble. Ce qui a été un grand moment dans ma vie numérique, quand même. Et bien, justement, puisqu'on parle de science-fiction et qu'on dit que les progrès technologiques ont rattrapé la SF et que la génération Y baigne dans la SF, à votre avis, est-ce qu'ils ont besoin d'une littérature de science-fiction, ces gens-là, puisqu'ils sont dedans?
Ah bah oui, parce qu'il y a tout ce qui arrive avec les intelligences artificielles et les robots, etc. Et ça pose des questions. Et malheureusement, on est dans une société où plus personne ne se pose la question de savoir ce qu'on va faire de la technologie. Parce qu'on est dans une société où si on peut le faire, on le fait. Mais des fois, ce n'est pas une bonne idée. Et personne, j'ai l'impression, n'est là pour réfléchir à ce qu'on va faire de ce qu'on peut faire. Et c'est un peu dommage. Stephen Hawking, par exemple, l'astrophysicien britannique, dit « Mais attention à l'intelligence artificielle, dans 20 ans, elle va être au point, mais nous, on sera beaucoup plus mal en point, par contre. C'est vraiment un danger. Et il n'y a personne, il n'y a aucun philosophe. Enfin, il y a peut-être des gens qui réfléchissent, mais en tout cas, c'est pas relayé. Et quand même, il y a une personne au CNES, l'Agence spatiale française, dont le boulot, c'est de réfléchir aux questions éthiques. Je trouve ça génial. C'est un poste qui est unique au monde. Le mec, il est responsable de l'éthique. Il se pose des questions pour savoir si... On doit faire ce qu'on peut faire. Je trouve ça formidable. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plutôt dans le chouette, les nanotechnologies, l'intelligence artificielle, les robots, tout ça. On peut le faire, on fonce, on y va, et puis on verra bien si ça pose des problèmes plus tard. Ben ouais, mais là, on arrive à des technologies, des puissances qui nous dépassent un petit peu, et j'ai peur que si on réfléchisse plus tard, ce sera trop tard. Mais...
Alors j'aimerais bien que tu précises en quoi, d'un point de vue éthique, selon toi, les intelligences artificielles sont un problème?
Bah, parce que ça redéfinit totalement la nature humaine. Si on a en face de nous un ordinateur que l'on confond avec un être humain, ça redéfinit l'essence même de l'être humain. Et je crois qu'on est au cœur de l'éthique.
Si en fait sur ce plan-là, mais est-ce qu'on ne peut pas l'envisager comme une autre intelligence? Tout simplement, pas un autre être humain.
Ben, c'est une autre intelligence, mais si on ne peut pas différencier l'intelligence humaine de l'intelligence artificielle, on ne se rend même pas compte que c'est une autre intelligence.
D'accord, je vois ce que tu veux dire.
Et à la question posée de savoir si ça va ou pas intéresser les jeunes ou la génération Y en termes de fiction, en termes de culture, là, il y a un vrai sujet qui est intéressant. Puisque précisément... Il y a une présence très très forte de la technologie aujourd'hui. Elle n'est plus de l'ordre du rêve et de l'aspiration. Elle est là. Et moi, ce que je constate dans l'intérêt culturel quoi, de cette jeune génération, c'est précisément quelque chose qui est plus un mix entre ça et une forme d'éthique, précisément, une forme de religion, de spiritualité. Avatar était ça. Hein, au cœur d'Avatar, c'était cette rencontre New Age, quoi. C'est le retour du New Age dans un monde numérique. Et je pense qu'il y a là des choses qui sont puissantes. Alors, est-ce que les jeunes sont intéressés par la lecture ou par aller au cinéma ? C'est un autre débat, mais par rapport à ça. C'est le premier point. Le second point, c'est que plus que la science-fiction, il me semble qu'il y a une dérive vers la fantasy, vers les donjons et dragons, vers un futur Harry Potter et ce que ça va devenir. Quoi. J'ai l'impression que la mise à distance du réel à travers la littérature va plutôt vers ce genre de fantasy que la hard science-fiction.
Olivier, toi qui es le spécialiste de la chose, donc du coup, oui, j'ai envie de te demander, est-ce que tu penses que la fantaisie est un escapisme pour la génération Y ?
Oh là.
Ça y est, je t'ai bien eu là.
Oui, là, tu veux me fâcher avec 90% des lecteurs.
Mais non. tu vas faire ça très bien.
Oui, non. Disons que le problème, bon, la fantaisie, typiquement, elle traite, l'essentiel, elle traite des mythes. Donc, effectivement, ça rejoint quelque chose de fondamental, retrouver des mythes. Or, la science-fiction, elle manipule les mythes, mais elle manipule le réel. Et c'est à la fois l'intérêt pour les amateurs, c'est-à-dire, justement, quand on lit de la science-fiction, même si c'est dans l'espace, même si on sait que ça n'est pas possible, mais toujours ce qui est le plaisir du lecteur, de ce qu'il attend, le lecteur de science-fiction, c'est qu'on lui dise que c'est possible, même si ce n'est pas forcément plausible, mais de se dire qu'il y a un continuum entre la vie, ma vie d'individu, et ce futur qui est imaginé par un auteur. Alors qu'en fantasy, on sait, le contrat est clair, on sait tout de suite que ça n'a aucun rapport avec mon monde réel. Donc aussi, il y a un aspect rassurant, il n'y a pas d'ambiguïté. Aussi, le contrat est clair. Dans le contrat de la science-fiction est plus ambigu, d'une certaine manière. Parce qu'on joue, toujours sur le rapport réel, sur ce qui est possible, pas possible, et les craintes, les peurs liées à ce qui est possible ou pas possible. La fantaisie, bon, même si on peut avoir une fantaisie qui se veut plus ou moins historique ou plus ou moins réaliste, je pense à Game of Thrones, même si c'est ça, le lecteur de base, il sait, bon, d'accord, ça n'a pas existé, ça n'existera pas. On est dans un ailleurs, on suit une histoire, même si cette histoire peut avoir une portée politique, tout ce que vous voulez, mais le contrat est clair. Le contrat de la science-fiction est assez différent. Et ça c'est de l'ambiguïté. Et le lecteur n'est pas forcément à l'aise avec cette ambiguïté, je pense.
Tu as utilisé le mot « je joue », parce qu'on parle beaucoup de formes classiques, en fait, livres, ainsi de suite. Mais cette génération, elle joue aussi beaucoup. Et elle rentre en interaction avec des univers, ce qui est très nouveau aussi. Et elle peut les créer. Donc elle crée des univers. Et il suffit de regarder un jeu comme Minecraft, qu'on appelle jeu bac à sable, qui fait des fureurs dans les 8-10 ans, qui crée toute une culture autour de ça. C'est-à-dire que le joueur crée aussi sa culture, des échanges, des interactions. C'est ça aussi la nouveauté de ces gens qui sont comme ça dans le dématérialisé, c'est qu'ils vont créer leur propre culture et aussi avoir des référents, parce que ce qui est intéressant dans l'heroic fantasy ou dans la fantasy, on est plus proche de Viollet-le-Duc sous Napoléon III que 2001 l'Odyssée de l'espace. Alors peut-être que c'est cyclique, peut-être qu'on reviendra à 2050 l'Odyssée de l'espace. Et donc il y a cette fascination, on est dans le néo-manga, le manga, la culture shogun, plus Harry Potter qui est lui-même du Tolkien et compagnie.
Mais qu'est-ce qui précisément touche la corde sensible de ces gens, tu l'as cité, c'est les mythes.
Oui, c'est la mythologie.
C'est la convocation des grands mythes fondateurs de l'humanité, des grands archétypes qui se retrouvent à tous les niveaux, aussi bien dans la fantasy que dans la SF.
Bien sûr, bien sûr.
C'est ça qui est vraiment porteur. Quoi.
Oui, mais pourquoi ? C'est-à-dire que votre génération, enfin vos générations, ils avaient un futur dessiné, c'est-à-dire il y avait l'an 2000. C'était magique l'an 2000, il y avait une date butoir. Bon, moi, un petit peu, mais les enfants qui sont nés après moi, on leur promet pas de futur. n'y a pas de date butoir où quand on leur promet un futur, il est épouvantable parce qu'il y a le réchauffement climatique et ce genre de choses. Et je pense que si on revient au mythe, c'est parce que c'est intemporel. Si avant la science-fiction qui était plus hard SF, c'est parce qu'il y avait cette limite de l'an 2000 qui, où tout était possible. Et je pense que ça change vraiment le rapport à la fiction. Parce que là, 2100, ça va être épouvantable, on va tous mourir de je sais pas quoi. 2200, on n'y pense même pas. Enfin, il n'y a plus de date, 3000, ça n'a aucun sens. Donc il n'y a pas cette limite psychologique dans le temps qui fait qu'on peut se projeter vers de la hard SF qui nous... Je ne sais pas, je pense que c'est pour ça qu'on vient au mythe, parce que c'est intemporel, de toute façon, qu'on peut y mettre ce qu'on veut. Et qu'il n'y a pas ce futur angoissant qui arrive. Mais c'est un point, je ne sais pas.
Oui, mais précisément, je pense que les mythes, c'est des récits que l'on se donne pour passer des moments difficiles. C'est toute la mémoire de l'humanité qui est là et qui nous permet de se rassurer un peu ou de se sentir appartenir à l'histoire de l'espèce. Et donc, c'est très juste ce que tu dis sur le fait que notre horizon est un peu noir, alors que l'an 2000 était peut-être éventuellement plus excitant. Il n'y a plus d'horizon. Donc les horizons que nous pouvons nous donner, ce sont des horizons qui viennent de la nuit des temps et qui seront là dans l'éternité de la conscience humaine. Et ça, c'est des choses
qui fusionnent d'ailleurs, qui
sans compter que les grands récits
qui fusionnent entre eux.
Oui.
Sans compter que les grands récits de type, que ce soit la religion, le marxisme, etc., se sont effondrés d'une certaine manière. Donc tous ces grands récits qui étaient modernes, enfin du siècle, si j'ose dire, se sont effacés d'une certaine manière.
Vous me faites penser à ce film où Wells, qui était un grand utopiste socialiste, débarque en 1980 et se retrouve tout dépité de ne pas trouver l'utopie sociale à laquelle il rêvait. Mais quelque part, effectivement, l'an 2000 a été une mythologie en soi. Et je vois très bien pourquoi Florence peut la mettre en avant comme ayant, s'étant autant cassé la gueule que
Je l'ai vécu, j'avais 17 ans.
Voilà.
Donc forcément.
Et nous, on ne l'a peut-être pas vu comme ça, à part devant le pathétique bug de l'an 2000, qui a été quand même la gestion d'un mythe de la façon la plus stupide qui soit, il faut quand même le dire. Alors maintenant, je pense que nous avons bien défriché le sujet et qu'il est peut-être temps de passer aux questions du public. Donc, car je vois, voilà. Alors, on ne passe pas le micro à Georges, s'il vous plaît. Il n'y a pas de questions ?
Si.
Ça marche. Il n'y a pas de micro, d'accord. C'est pas pareil.
En fait,
la technologie.
Ce serait pour revenir sur la dernière question. Donc, à savoir que la génération Y, est-ce qu'elle s'intéressera vraiment à la science-fiction dans l'avenir ? La manière dont je l'ai perçue, en fait.
Excusez-moi, mademoiselle, nous ne vous entendons pas du tout. Parlez dans le micro. Mangez-le.
Sur la dernière question. C'est bon ? Sur la dernière question. Est-ce qu'on peut éviter les photos ? Oui, donc sur la dernière question, en fait, dans vos réponses, la manière dont je l'ai perçue, c'est comme si, en fait, la génération Y n'avait plus rien à attendre de la science, comme si on était arrivé à un point où vraiment on avait tout fait en science, alors que pour moi, on est encore au balbutiement et il reste tellement de choses à voir, et j'espère qu'il reste encore beaucoup de choses à voir. C'est en tout cas la manière dont je l'ai perçu, et j'aimerais, enfin, ma question ce serait de savoir si pour vous on est vraiment arrivé à un point où la science-fiction ne servira plus à rien en termes de science, en termes de technologie, ou si vraiment il reste quand même des choses à découvrir.
Florence ?
Alors évidemment qu'il reste plein de choses à découvrir, mais le truc c'est que j'ai l'impression que cette génération qui est baignée dans les réseaux sociaux et internet, etc., se défie des scientifiques parce qu'ils ont... Ils veulent les réponses, enfin, ils croient les réponses qu'ils veulent connaître. Il y a une défiance des scientifiques à l'heure actuelle, et c'est très compliqué, parce que du coup, les scientifiques sont vus comme des gens dont il faut se méfier. Et du coup, j'ai l'impression que même s'il y a encore des tas de découvertes à faire, dans tous les cas, on ne veut pas les connaître, ou quand il y a des choses qui se font, il y a une défiance et donc un rejet. Enfin, c'est très complexe. C'est très, très complexe. Alors qu'il y a encore 40, 30 ou 40 ans, c'était pas, je crois que ce n'était pas comme ça, mais peut-être que...
Mais je crois surtout, vous avez tout à fait raison.
Excuse-moi, Christian, mais je devais donner la parole à Olivier. Voilà. Mais mais je te la donne juste après. Olivier.
Je crois que ce n'est pas tellement le problème de la science, c'est le problème de la société. C'est-à-dire, la société n'a plus de discours. C'est un problème, je vais dire, politique. C'est-à-dire que la société n'a plus de discours sur le futur. La notion de progrès qui a quand même été quelque chose qui a traversé depuis les Lumières, la Troisième République, enfin, bon, imaginez quand même, le progrès. C'est quelque chose qui a fait que tout passait à travers ce prisme du progrès. Donc, c'est plutôt, à mon avis, un problème social qu'un problème de la science. C'est-à-dire qu'on ne sait plus quel est le moteur qui va nous parler du futur, ce qu'on veut pour le futur. Après, si on savait, si on avait une volonté de ce que l'on veut faire le futur, si on regarde finalement quels sont les futurs qui nous sont proposés, le meilleur futur, c'est la décroissance, c'est-à-dire s'arrêter de croître. Il y avait récemment une interview d'une économiste qui disait, oui, mais le problème, c'est que nous avons, elle parlait pas simplement en Europe, mais dans le monde entier, c'est-à-dire que les gens ont envie de se dire que demain sera différent, qu'il y aura une amélioration. Si on leur dit, c'est fini, vous restez là, on stagne, c'est terminé, c'est très difficile d'imaginer le futur, de se dire, je vais reproduire le cycle indéfiniment, parce que sinon, c'est la planète qui crève. C'est difficile d'imaginer le futur dans ces conditions. C'est un problème, à mon avis, plutôt social. Après, la science, elle fait ce que la société veut, d'une certaine manière. Et là, pour l'instant, si la société ne veut rien, ça va être difficile à la science de faire quelque chose.
Christian ?
Ce que je voulais dire surtout, c'est qu'il est toujours très difficile de généraliser. Et que la sociologie du futur, en tout cas le regard qu'on pourra avoir demain sur le futur, sera peut-être justement de s'emparer de choses complètement différentes, d'éviter les généralisations. Et pour répondre à votre question sur l'aspiration de la science et sur l'espoir qu'on peut avoir dans la science, de toute façon, il suffit de voir les films d'Hollywood aujourd'hui. Les uns sont complètement dystopiques. On a l'impression que la machine va nous bouffer et que les robots vont se révolter. Certains sont un peu plus positifs sur le fait que, et ça relève plus à ce moment-là aujourd'hui des transhumanistes et de ce que Google est en train de sponsoriser pour sauver l'humanité, c'est-à-dire c'est la technologie qui va nous sauver. Donc entre ces deux éléments-là, je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a des cohortes de gens, des groupes de gens qui prennent parti pour telle ou telle forme d'inquiétude ou d'espoir, et que c'est ça qui fonde, alors précisément notre génération Y, hein, elle est complètement là-dedans. Parmi les générations Y, il y en a qui sont plus ou moins désespérés et d'autres plus ou moins enthousiastes. Hein. Donc là, c'est essentiel.
Une notion qui perturbe toujours, et je pense en effet qui est très difficile pour vous à gérer, c'est que le marketing s'est emparé des mots du progrès. Et par exemple, je cite souvent une marque que vous connaissez qui passe son temps à dire « This is a revolution » juste parce qu'elle a grandi d'un centimètre. C'est-à-dire qu'on est toujours, on a toujours un discours marketing de dire « Regardez, c'est mieux, on change de prise pour des évolutions, juste des évolutions. » Alors qu'en fait, dans les laboratoires, il y a des choses qui sont vraiment fondamentales, qui sont vraiment très intéressantes, qu'on ne connaît pas, qu'on ne visualise pas toujours de la bonne manière et qui, en fait, sont beaucoup plus structurantes que simplement le changement de prise de recharge d'un téléphone. Donc, vu de l'extérieur, on a l'impression que rien ne s'invente ou que rien ne se modifie. Il y a un phénomène aussi qui est intéressant et qui touche la même génération, c'est ce débat, croissance ou pas croissance. En ce moment, il y a des manifestations, ici on est bien placé, il y a un aéroport, et vous avez en même temps deux discours, des gens qui disent « un aéroport c'est le progrès », moi j'ai entendu ça toute ma jeunesse, hein. Orly c'était le progrès, on allait le dimanche visiter Orly comme on allait voir Roissy, comme quand on va en Chine, on voit le nouvel aéroport et tout le monde est très fier, et d'autres gens qui disent « non, il y a déjà trop d'avions ». C'est ça aussi la cassure, c'est que, est-ce qu'on peut vivre aussi sans avions ? C'est-à-dire que peut-être imaginer dans 50 ans, de toute façon, il n'y aura plus d'avions parce qu'on ne saura pas les faire voler, et d'autres se disent « mais si, dans 50 ans, il y aura encore des avions parce qu'on a foi dans la création, dans la science, qui trouvera les moyens de faire voler des avions ?» On est là, entre les deux.
Il y a d'autres questions ?
Bonsoir, j'ai eu la très grande chance dans les années 93-94 d'assister à une conférence qui concernait les nouvelles technologies justement dans les laboratoires de recherche fondamentale. Et la grande question qui s'était posée à ce moment-là, c'était de savoir quelles seraient les technologies qui seraient mises en œuvre dans les années futures, et quelles seraient celles qui seraient abandonnées. Et la réflexion s'était portée sur le fait que finalement, c'était l'aspect mercantile qui allait choisir. Donc, on revient tout à l'heure à ce qu'on disait sur l'éthique, à ce qu'on disait sur l'économie, à ce qu'on disait sur la sociologie. Et finalement, la génération Y, si on veut revenir à une définition, est-ce que ce ne serait pas celle qui, étant totalement immergée dans cette technologie, peut la réinventer d'un point de vue, je dirais, plus utopique et plus idéaliste, en ne cherchant pas à savoir si les choix seront faits parce que c'est mieux pour l'humanité ou si c'est parce que ce sera vendable.
Florence, tu veux répondre ?
C'est une vaste question. J'ai l'impression, de ce que je vois autour de moi, que les personnes qui sont nées au sein de la technologie se foutent totalement de savoir comment ça fonctionne. Jusqu'à ce que ça fonctionne. C'est comme quand les premières voitures sont arrivées. Tout le monde mettait la main dans le moteur pour savoir comment ça fonctionnait et tout. Maintenant, plus personne ne sait comment fonctionne un moteur. Bon, c'est des générations qui arrivent. Et je ne sais pas si les jeunes de la génération Y ont envie de réinventer les technologies. Je pense qu'ils sont confortablement installés dedans. Et que du coup, oui, tant que c'est joli, c'est cool. Et tant que c'est... Après, je fais une grosse généralité, évidemment. Je vais me faire appeler Arthur après. Mais il y a toujours des gens qui, effectivement, font de la recherche pour faire évoluer. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'on n'a pas inventé le téléphone en faisant en ayant conduit des études d'amélioration du pigeon voyageur. C'est parce qu'il y a eu de l'électricité, etc., et de la recherche fondamentale qui a permis l'invention du téléphone. Et le problème, c'est que la recherche maintenant conduit des études ou met de l'argent dans la recherche qui cherche à améliorer des systèmes déjà existants. Et la recherche fondamentale est un petit peu le parent pauvre de la recherche, j'ai l'impression. Et du coup, c'est pas une bonne idée pour essayer d'innover, justement. Tant qu'on cherchera à améliorer, on n'innovera pas. On n'innovera pas, voilà. Donc, pour l'aspect mercantile, je ne sais pas. Je ne suis pas apte à répondre à cette question, mais voilà mon avis sur le sujet.
Oh, moi, je pense qu'il ne faut pas diaboliser le commerce. C'est fini.
Le
commerce a toujours fait tourner le monde. Donc, ce n'est pas la peine de le diaboliser, il va se débrouiller tout seul.
Cela étant, donc, nous allons vous souhaiter bonsoir et puis je vais vous remercier, chers invités, de votre...